pour voir ta puissance. Donc, dans le psaume 78.
78.
Versets 1 à 10.
10.
Si quelqu'un peut lire ces 10 versets.
Mon peuple, écoute mes instructions. Prêtez l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche par des sentences. Je publie la sagesse des temps anciens. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne cacherons point à leurs enfants. Nous dirons à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les prodiges qu'il a opérés. Il établit un témoignage en Jacob. Il a mis une loi en Israël. Il a ordonné à nos frères de l'enseigner à leurs enfants, pour qu'elle fût connue de générations futures, des enfants qui connaîtraient, et que, devenus grands, ils en parlassent à leurs enfants, afin qu'ils missent en Dieu leur confiance, qu'ils n'oubliassent pas leurs œuvres de Dieu, et qu'ils observassent ses commandements, afin qu'ils ne fussent pas, comme leur père, une race indocile et rebelle, une race dont le cœur n'était pas ferme et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. Les fils d'Éphraïm, armés et tirant de l'arc, tournèrent leur dos le jour du combat. Ils ne gardèrent point l'alliance de Dieu et ils refusèrent de marcher selon sa loi.
Amen.
1 Corinthiens chapitre 10, et là nous lirons les 14 premiers versets. 1 Corinthiens 10, versets 1 à 14.
Père, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé au travers de la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer, qu'ils ont tous mangé le même aliment spirituel, et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Mais la plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Ne devenez point idolâtres comme quelques-uns d'entre eux. Selon qu'il est écrit, le peuple s'assit pour manger et pour boire, puis ils se levèrent pour se divertir. Ne nous livrons point à la débauche comme quelques-uns d'entre eux s'y livrèrent, de sorte qu'il tomba 23 000 en un seul jour. Ne tentons point le Seigneur comme tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par le serpent. Ne murmurez point comme murmurèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par l'exterminateur. Ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Ainsi donc, que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'a été humaine. Et Dieu qui est fidèle ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi nos moyens d'en sortir, afin que vous puissiez la supporter.
Amen.
Amen.
C'est pourquoi, mes bien, fuyez l'idolâtrie.
Amen.
Amen.
Merci beaucoup à ceux qui ont lu le passage. Si nous avons été attentifs à ces deux lectures, nous voyons que l'apôtre Paul, ici dans son épître aux Corinthiens, rappelle en fait le psaume 78 que nous avons lu. Il met en garde les chrétiens de Corinthe et il fait vraiment ce parallèle entre ce qui s'est passé avec le peuple juif lorsqu'il est sorti d'Égypte. Si nous poursuivons la lecture du psaume 78 que nous avons lu, nous n'avons lu que 10 versets, il y en a 72. Si nous avons été jusqu'au bout, eh bien, nous avons vu qu'il nous parle justement de l'attitude du peuple d'Israël envers son Dieu. D'un côté, nous voyons la fidélité de Dieu qui va se manifester par des actes prodigieux, des actes miraculeux en faveur du peuple. Et de l'autre côté, c'est tout à fait le contraste. Nous voyons l'infidélité du peuple qui va se traduire par l'ingratitude, la désobéissance, la révolte, jusqu'à aller même jusqu'à l'idolâtrie. Au vu de ce qui s'est passé avec ce peuple, Dieu demande que tous les faits soient rapportés aux générations à venir. La fidélité, la grandeur et la puissance de Dieu doivent être connues jusqu'à la dernière génération. Dans nos Bibles, on parle de la génération à venir ou de la génération future. Mais le terme exact en hébreu, c'est la génération dernière. Donc, chaque fois, jusqu'à la fin, tant qu'il y aura une génération, cette génération doit connaître les faits. Cette génération doit connaître ce qu'il s'est passé. Donc, et ce terme « génération dernière » peut être important pour nous. Donc, tout doit être rapporté, autant la grandeur, la puissance de Dieu, la manifestation de Dieu, mais aussi l'ingratitude, la désobéissance, l'abandon de Dieu par son peuple doivent aussi être rapportés jusqu'à la dernière génération. Pour qu'on sache justement qui est Dieu et qui est l'homme. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est patient, Dieu est miséricordieux. Et de l'autre côté, on voit le mauvais cœur de l'homme qui, malgré tous les bienfaits de Dieu, la tendance humaine est toujours là à s'éloigner, à s'écarter de Dieu. Dieu veut non seulement que chaque nouvelle génération sache ce qu'il s'est passé, mais aussi qu'elle connaisse l'importance de garder sa loi. Important de garder la loi de Dieu. Nous reviendrons sur ce point tout en allant dans notre méditation. Tout le monde, je pense, nous connaissons l'histoire du peuple d'Israël, les années passées en esclavage en Égypte. Nous connaissons ce qui s'est passé lors de sa libération. Nous connaissons les 40 années dans le désert et son entrée dans le pays promis. Nous savons aussi que la génération qui a quitté l'Égypte n'a pas pu entrer dans la terre promise. Elle a été engloutie dans le désert, sauf deux personnes. Alors on pourrait se poser la question, mais pourquoi ? Pourquoi tout ce peuple n'a pas pu entrer dans la terre promise ? C'est la désobéissance, à cause de leur désobéissance envers Dieu. Mais on pourrait aussi se poser la question, pourquoi une telle désobéissance ? Comment se fait-il que le peuple soit allé aussi loin dans la désobéissance pour être englouti dans le désert, pour que la colère de Dieu soit telle? Que s'est-il passé? Plusieurs versets, si nous avons continué le psaume 78, nous révèlent par-ci, par-là, ce qu'ils ont fait. Au verset 10, par exemple, « Ils n'ont pas gardé l'alliance de Dieu et ont refusé de marcher selon sa loi. » Au verset 17, « Et ils péchèrent de nouveau contre lui, irritant le Très-Haut dans le désert. » Au verset 22, « Ils ne crurent pas Dieu, ils n'eurent pas confiance dans son secours. » On pourrait ainsi continuer, hein, les versets qui démontrent l'infidélité de ce peuple. Pourquoi une telle désobéissance alors que c'est un peuple qui a vu des choses comme aucun autre peuple n'a vu? Ils ont vraiment vu la main de Dieu. Pourquoi une telle désobéissance? Eh bien, je pense que tout simplement parce que Satan, connaissant le plan de salut pour l'humanité, il va tout mettre en œuvre pour que cet objectif ne soit jamais atteint. Alors Satan, sachant cela, et sachant que cette génération qui sortait de la délivrance du pays d'Égypte, c'était une génération privilégiée, c'était une génération particulière. Pourquoi ? Parce que c'est par elle que Dieu allait se révéler au monde et accorder le salut. Donc c'était un peuple important, c'était une génération importante. Sachant cela, le diable va s'acharner, le diable va déployer toute sa ruse comme jamais auparavant pour que ce peuple ne puisse pas entrer dans les promesses de Dieu. Il va tellement s'acharner qu'il va presque y arriver. Parce que la parole de Dieu nous dit qu'il n'y a que deux personnes qui sont sorties du pays d'Égypte et qui sont entrées dans la terre promise. Alors qu'on sait qu'il y a 600 000 familles qui sont sorties donc, du pays d'Égypte. 600 000 familles, donc si on multipliait par 3, plus ou moins, au minimum, imaginez le nombre qu'ils étaient. On pourrait multiplier peut-être même par 4 ou par 5. Donc, deux personnes seulement vont entrer dans la terre promise. Cette génération était une génération privilégiée car non seulement elle a vu le doigt de Dieu, mais elle devait aussi manifester la gloire de Dieu auprès de toutes les nations. Et on pourrait justement faire ce parallèle entre cette première génération et la génération qui arrive maintenant à la fin des temps. Comme Paul le disait dans son épître que nous avons lu, à nous qui arrivons à la fin des temps, à la fin des siècles. Donc faire ce parallèle. Et nous pourrons peut-être nous appeler, nous aussi aujourd'hui, la génération dernière. Au vu des circonstances que nous sommes en train de vivre, nous pourrons peut-être être la dernière génération. L'apôtre Paul, dans son épître, au chapitre 10, il commence par dire « Je ne veux pas que vous soyez dans l'ignorance. Je ne veux pas que vous ignoriez. » Donc, il accorde une grande importance à cela. Nous ne devons pas être ignorants des choses qui se sont passées avant. Nous ne devons pas fermer les yeux. Nous devons être attentifs. Ce qui s'est passé avant avec cette première génération, ces choses vont se passer aussi avec la dernière génération. C'est un peu cela qu'il veut nous dire. Vous ne devez pas ignorer ce qui s'est passé avant parce que vous allez revivre les mêmes choses à la fin des temps. Vous qui êtes la dernière génération. Ce qui a été écrit au sujet du peuple d'Israël dans le désert l'a été pour nous. C'est ce qu'il nous dit l'apôtre Paul dans son épître. Ceci a été écrit pour notre instruction. Nous devons donc nous instruire sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Pourquoi ? Afin de ne pas tomber dans les mêmes pièges que la première génération. Nous sommes aussi une génération privilégiée. Nous sommes privilégiés, pourquoi ? Parce que bientôt nous verrons le retour du Fils de Dieu dans sa gloire. Beaucoup de générations sont passées, n'ont pas vu cela. Nous serons peut-être la dernière génération qui peut voir le retour de Jésus dans sa gloire. Nous voyons énormément de prophéties se réaliser sous nos yeux. Je ne sais pas si vous êtes attentif à cela, mais il y a énormément de prophéties qui concernaient les temps de la fin qui sont en train de se produire aujourd'hui devant nos yeux. Mais... ces choses, lorsque nous lisons par exemple dans l'Ancien Testament, il était dit celle cache ces choses parce que ce n'est pas pour maintenant. Alors qu'aujourd'hui, ces choses qui étaient cachées pour ce temps-là, aujourd'hui nous les voyons sous nos yeux. Donc, ça veut dire que nous sommes vraiment à la fin des temps, puisque ces choses maintenant se réalisent sous nos yeux.
Amen.
Nous sommes témoins de l'injustice qui se manifeste aujourd'hui. Nous sommes témoins du mal qui va grandissant aujourd'hui. Le bien est appelé mal, le mal est appelé bien, comme la parole de Dieu l'avait dit. Les lois divines sont rejetées aujourd'hui pour laisser place aux lois humaines, des lois qui sont iniques et blasphématoires. Nous sommes témoins de ces choses-là. Frères et sœurs, si nous voyons de telles choses, nous devons être attentifs. Cela veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant le monde commence à aller de plus en plus loin et que le péché va arriver à son comble. Le péché va arriver à son comble. Jésus a prévenu ses disciples, nous a prévenu en disant « De même, quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est proche à la porte. » Quand vous verrez ces choses arriver, sachez que le Fils de l'homme est à la porte. Alors on peut se poser la question, sommes-nous la dernière génération? Si pas la dernière génération, celle de nos enfants, ou tout au plus celle de nos petits-enfants, sera la dernière génération. Pourquoi ? Parce que le mal est en train de grandir. Et lorsque nous voyons dans la parole de Dieu, chaque fois qu'il y a une génération qui a atteint le comble du péché, Dieu a dû intervenir. Et Jésus va citer deux générations dans lesquelles Dieu est intervenu. C'est la génération de Noé et la génération de Lot. Et en parlant de temps de la fin, Jésus va utiliser, va prendre pour exemple ces deux générations. Et Jésus va dire, il en sera de même que du temps de Noé. Il en sera de même que du temps de Lot. Pourquoi ? Parce que chaque fois, quand le péché a été trop loin, Dieu a dû intervenir. Du temps de Noé, il y a une phrase qui va tout résumer. Hein? Le péché était arrivé à son comble. Cela veut dire quoi ? D'après les juifs sages qui étudient la parole de Dieu, et vous savez que l'hébreu est très très riche, dans ces mots-là, ça veut dire que le péché est allé trop loin. Le péché est allé trop loin. Et bien souvent, c'est lorsqu'on commence à aller trop loin au niveau de l'idolâtrie et de l'abomination. Donc, du temps de Noé, c'était cela. Et du temps de Lot, c'était pareil. Du temps de Lot, on a encore plus de précision lorsqu'on voit le comportement qui était là, où la loi de Dieu n'était plus appliquée et où les hommes, les femmes se laissaient aller. Hein, où tout était permis, tout était autorisé. Et c'est un petit peu ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous avons vraiment pris ce même chemin et c'est comme un train qui va à toute allure, qui fonce vers ce but qui est le mal. si Dieu nous prête vie encore quelques années, nous verrons que Sodome et Gomorre seront atteints. Notre génération va atteindre ce qui s'est passé dans Sodome et Gomorre. Et Dieu ne peut pas fermer les yeux sur ces choses. Dieu ne peut pas fermer les yeux sur ces choses. Déjà, nous voyons, et il y a parfois des personnes qui se posent la question, est-ce que nous verrons l'Antichrist? Est-ce que nous connaîtrons la grande tribulation? C'est peut-être même pas des questions à se poser, frères et sœurs, parce que même si nous ne voyons pas l'Antichrist en tant que tel, ce que nous pouvons déjà dire, ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que déjà maintenant, nous voyons la main de l'Antichrist.
Amen.
Nous voyons déjà la main de l'Antichrist à travers les lois qui sont promulguées. Nous voyons la main de l'Antichrist à travers les décisions qui sont prises par l'Europe et notamment par certains pays. Et dans les prophéties de Daniel, au chapitre 7, verset 25, il est dit qu'il y aura une petite corne qui sortira donc de la dernière, du dernier empire, puisque nous sommes dans ce dernier empire justement, il y a cette petite corne qui sortira et il est dit qu'elle prononcera des paroles contre le Très-Haut. Il opprimera les saints du Très-Haut et il espérera changer les temps et les lois. C'est ce que nous sommes en train de vivre. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Les lois sont en train d'être changées. On veut tout modifier. On voit l'arrogance qui est là. Dieu est rejeté. Dieu est mis de côté. Il ne faut plus parler de Dieu aujourd'hui. J'ai entendu qu'une jeune fille chrétienne a perdu son travail sur le champ. Pourquoi ? Parce que à son travail, elle a offert un calendrier chrétien. Elle a offert un calendrier chrétien à une collègue et on a vu cela. Donc, elle a perdu son travail sur le champ, licenciée sur le champ, parce qu'elle n'avait pas le droit de donner un verset biblique à quelqu'un. Vous vous rendez compte? Il y a les lois qui sont en train de changer au niveau de l'éducation, en tout cas dans certains pays, et je crois que ça va arriver aussi en Belgique, parce que ça va être mondial, au niveau de l'éducation sexuelle, où les petits-enfants déjà doivent être initiés dès la maternelle, les initier au niveau de la sexualité et aussi d'obliger les enseignants à dire aux enfants, aux petits-enfants, qu'ils ne sont ni garçons ni filles. Donc, on laisse la liberté, le choix de changer son sexe, en quelque sorte, jusque-là. Et ça, c'est dans les programmes de l'enseignement. Changer les lois, comme Daniel l'avait prophétisé. Changer les temps, changer les lois. On veut tout changer. Des lois immorales, aujourd'hui, sont votées. Hein, le LGBT et compagnie, le mariage pour tous, mariage pour tous. On touche à une institution divine. Le mariage est une institution divine. Ce n'est pas simplement pour l'homme et la femme. Le mariage, il a été prévu avant que l'homme ne soit créé pour Dieu. Pourquoi ? Parce que Paul dit, c'est un mystère entre Christ et l'Église. C'est un mystère. Le mariage est un mystère par rapport à Christ et l'Église. Donc, bien avant la fondation du monde, le mariage était prévu pour Dieu, pour son Fils et son Église. C'est une institution. Aujourd'hui, on veut banaliser cela. Entre homme et homme, femme et femme, on peut se marier, on peut... Voilà. On va trop loin. On dépasse les limites, on dépasse les bornes. Mais on dira, mais ça c'est dans le monde. Bien sûr, c'est dans le monde. Mais que dire des églises? Que dire des églises? Beaucoup d'églises aujourd'hui abandonnent la parole de Dieu. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui abandonnent la loi de Dieu pour celle des hommes. Des comportements qui choquaient des incroyants il y a quelques années ne choquent même plus les chrétiens aujourd'hui. Pour vous dire que nous nous habituons tellement, il y a cette insensibilité spirituelle qui nous gagne. Et cela me fait penser à ce que Paul nous disait aux chrétiens de Corinthe. Ils se sont assis. Ils ont commencé à boire, ils ont commencé à manger et ils se sont levés pour se divertir. Se divertir. Le diable est en train de divertir l'Église.
Ouais.
Le diable est en train de divertir l'Église pour que l'Église oublie sa mission. Comme le peuple, la première génération, Satan a vraiment tenté cette première génération pour qu'elle ne puisse pas atteindre son but. Et Satan fait la même chose aujourd'hui avec l'Église, aujourd'hui qui est la dernière génération. Il veut nous divertir par beaucoup de choses. Comme ça, on ne passera pas du temps à la prière. Comme ça, on ne passera pas du temps à l'étude de la parole de Dieu. Comme ça, on ne passera pas du temps à glorifier Dieu, à servir Dieu, à évangéliser. On va s'occuper d'un tas de choses. On est dans la diversification. Frères et sœurs, nous devons vraiment être attentifs. Attentifs, et c'est pourquoi il est important de revenir. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Nous devons revenir à la parole de Dieu. Le psaume 78 commençait par cela justement. Mon peuple écoute la loi de Dieu. Il faut revenir à la loi de Dieu. Notre génération doit connaître les lois de Dieu. Nous devons les enseigner à nos enfants, à nos petits-enfants. Nous devons continuer, quoi qu'il arrive. Quoi qu'il arrive, nous devons continuer.
Amen.
Nous ne devons pas vivre le compromis aujourd'hui. Quand c'est blanc, c'est blanc. Quand c'est noir, c'est noir. On ne peut pas mélanger le blanc et le noir. Que votre oui soit oui, que votre non soit non. Tout ce qu'on va ajouter vient du diable. Nous n'avons pas à discuter de la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit c'est comme ça, il ne faut plus commencer à écouter une autre voix qui dit oui mais, il n'y a pas de oui mais. C'est la parole de Dieu qui l'a dit et on doit rester intransigeant par rapport à cela. Et bien entendu, cela va nous coûter. Cela va nous coûter. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ sera persécuté. Nous allons être persécutés de cette manière-là. Nous allons être condamnés tantôt par-ci ou par-ça. Pourquoi? Parce que nous voulons rester fidèles. Celui qui veut rester fidèle à la parole de Dieu, bien sûr, il sera atteint. Rester fidèle à la parole de Dieu. Croire ce que Dieu a dit, parce que Dieu n'est pas un menteur. La parole de Dieu nous dit qu'il y aura des temps difficiles à la fin des temps.
Je t'ai envoyé les versets.
Il y aura des temps difficiles, mais le Seigneur nous dit aussi dans l'Épître aux Corinthiens que nous avons lu au verset 13. Nous devons rester attachés au Seigneur, quoi qu'il arrive. Et il dit aussi que celui qui est debout prenne garde de ne pas tomber. Nous devons prendre garde de ne pas tomber. Et pour cela, nous devons justement rester attachés à la parole de Dieu.
Amen, alléluia.
Les temps seront difficiles, c'est certain, mais nous ne devons pas craindre. Le Seigneur l'a dit, j'ai vaincu. J'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Ce n'est plus notre travail, c'est le travail du Seigneur. Le Seigneur fera son travail. Et c'est pour ça qu'il nous dit aussi, aucune tentation qu'aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu, qui est fidèle, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces.
Amen.
Dans chaque tentation, il va préparer aussi le moyen d'en sortir, afin que nous puissions la supporter. Dieu donnera toujours le moyen. Comment faut-il faire pour que nous puissions toujours rester attentifs à cela? Mais c'est ce que Jésus disait à ses disciples lorsqu'il va être dans le jardin de Gethsémané. Jésus est face à cette tentation. Jésus est face à cette lutte, à cette difficulté. Et Jésus dit, le seul moyen pour ne pas tomber dans la tentation, c'est de prier. Il va venir trouver ses disciples et dit, priez avec moi afin de ne pas tomber dans la tentation. Ils n'ont pas prié, ils sont tombés dans la tentation. Alors, le conseil que le Seigneur nous donne, pour être le plus proche possible du Seigneur et de pouvoir sortir vainqueur de ces moments difficiles qui nous attendent, c'est de rester dans la prière. C'est rester fondé sur la parole de Dieu. Et lorsque Satan viendra nous glisser des paroles pour nous dire « oui, mais, il est écrit. » Il est écrit et on le renvoie. « Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. » N'entrons pas en discussion avec lui. N'essayons pas de réfléchir. Nous ne nous croyons pas beaucoup plus sages que la parole de Dieu. Il y en a beaucoup qui ont essayé et qui sont tombés. Des milliers de personnes sont restées englouties dans le désert dans la première génération. Il n'y en a que deux qui sont restés fidèles à Dieu, qui se sont appuyés sur la parole de Dieu, qui ont eu confiance en Dieu. Deux personnes. Frères et sœurs, ce n'est pas pour faire peur que ce message nous est donné, mais justement pour éveiller notre conscience, pour que nous soyons attentifs à ce qui va se passer. Nous allons parfois combattre non seulement avec les gens du monde, mais parfois dans nos églises même, parce qu'il y en a d'autres qui ne voudront pas rester fidèles à la parole de Dieu. Nous devons faire face à ces personnes-là dans l'église, et c'est ça qui sera encore plus dur. Et le Seigneur l'a dit, l'amour du plus grand nombre se refroidira. C'est le Seigneur qui l'a dit. Lorsque le Fils de l'homme viendra sur la terre, trouvera-t-il encore la foi? Lorsqu'il parle de la foi, ce n'est pas envers les inconvertis. Non, c'est envers les gens de l'Église. Des gens qui sont dans l'Église, est-ce qu'ils auront encore la foi? C'est contre ces gens-là parfois que nous devrons faire face et que la lutte est encore plus difficile. Frères et sœurs, ne regardons pas à nos capacités, ne regardons pas à ce que nous sommes capables ou incapables de faire, mais regardons à ce que Dieu peut faire. Regardons à ce que Dieu, lui seul, est capable d'accomplir à travers des gens comme nous, des gens simples. C'est ce que Jésus a dit. Père, je te rends grâce de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Et tu les as révélés aux petits-enfants. Considérons-nous comme des petits-enfants devant le Seigneur, des personnes qui ont besoin de sa grâce, besoin de lui, et il n'y a que lui qui pourra nous fortifier pour sortir vainqueurs de ces temps difficiles par lesquels l'Église va passer, par lesquels nous allons passer. Sommes-nous la dernière génération? Dieu seul le sait. Dieu seul le sait. Mais restons fidèles à sa parole. Que sa loi reste gravée sur nos cœurs, appuyons-nous sur sa parole et lui seul nous rendra vainqueurs, lui seul nous rendra capables, il nous donnera les forces nécessaires pour surmonter cette épreuve qui vient sur le monde entier, comme le dit le livre de l'Apocalypse. Et le Seigneur dit « Malheur à la terre, parce que le diable a été précipité sur la terre. » Malheur à la terre. Le diable va déferler dans toute sa puissance parce que c'est la dernière chose qui lui reste, parce qu'après cela, il sera lui-même englouti, il sera lui-même enchaîné. Donc, ce qu'il a fait à la première génération, il le fera encore plus à la dernière génération. Encore plus. Parce qu'il sait maintenant que c'est sa fin et qu'il est condamné à l'échec. Que Dieu nous aide, que Dieu nous fortifie, que Dieu nous renouvelle dans la foi et que vraiment nous puissions lui rester fidèles jusqu'au bout, dans sa grâce. Que Dieu soit béni. Amen.
Amen. Amen. Amen. Yeah. Amen.